prépare. Allez Michel, je vous ai dit bonjour tout à l'heure, bonne intervention autour de Rivière en fête ce samedi. Donc du coup, eh bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de votre 35e chronique astro et on dira à nouveau quelques mots bien sûr sur Constellation et Galaxy. Mais là, comme il faut gérer le temps, histoire que vous ayez vraiment le temps de présenter cette chronique, hein, parce que c'est de la passion, mais c'est du travail aussi, hein, c'est bien de le souligner. Hein. Allez, on va commencer par l'actu.
Voilà.
Et souhaiter un bon anniversaire à Voyager. J'essaye pour l'accent. Hein.
Voilà, c'est bien. Oui, un jour près, en fait, hein, car c'était hier, le 5 septembre, qu'on pouvait fêter le 40e anniversaire de la sonde américaine Voyager 1, qui a été lancée le 5 septembre 1977, trois semaines après sa jumelle Voyager 2, qu'elle dépassera lors de leur trajet vers les planètes extérieures Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. C'est pour ça qu'on les avait numérotées dans ce sens-là. Ces sondes battent tous les records en étant les plus anciennes encore en activité puisqu'on peut encore communiquer avec elles et les plus lointaines avec une distance de la Terre de l'ordre de 16 heures lumière pour Voyager 2 et 19 heures lumière pour Voyager 1. Cela signifie que lorsqu'on lui envoie un message, la réponse nous parvient 38 heures plus tard, donc à peu près un jour et demi, le temps que les ondes radio mettent à parcourir aller-retour à la vitesse de la lumière les quelques 20 milliards de kilomètres qui nous séparent d'elle. Je me répète pour être bien compris, hein, c'est 19 heures lumière qu'il a fallu 40 ans pour parcourir à cette sonde et non pas des années lumière qu'on utilise pour mesurer les distances des étoiles de notre voisinage. Par exemple, 4,2 années lumière pour la plus proche de nous. Si on multiplie par 24 heures par jour et 365,25 jours par an, on trouve qu'il lui faudra environ 350 000 ans pour atteindre la distance de 19 années-lumière, ce qui est notre proche banlieue à l'échelle stellaire de la galaxie, et pourtant elle fonce à 60 000 km à l'heure. On considère que Voyager 1 a atteint fin août 2012, donc il y a 5 ans maintenant, les limites de la zone d'influence directe du Soleil, qu'on appelle l'héliosphère, car ces instruments montrent que le vent solaire, hein, les particules envoyées dans l'espace par notre étoile, ne peut plus être discerné de l'influence des autres étoiles. Elle voyage donc dans l'espace interstellaire, un peu comme une bouteille envoyée à la mer et qui, dans très très longtemps, pourrait atteindre une éventuelle civilisation extraterrestre si elle existe. À l'initiative de l'astronome Carl Sagan, ces sondes sont d'ailleurs porteuses d'un message sous forme d'un disque doré de 12 cm contenant des sons, aussi bien des bruits naturels, de la musique que des phrases prononcées dans différentes langues et 116 images censées représenter notre planète et ses habitants. Son couvercle protecteur est gravé de figures expliquant où se trouve la Terre et comment le disque peut être lu. Avant d'atteindre ces distances astronomiques et devenir des sondes étudiant le milieu interstellaire, ce qu'on n'avait jamais imaginé lors de leur lancement, elles étaient destinées à étudier les planètes et leurs satellites au cours d'une mission extraordinaire appelée Grand Tour. L'histoire de cette aventure spatiale est elle-même une suite d'événements assez incroyables, car dans les années 1960, les planètes lointaines paraissaient inaccessibles, sauf à voyager pendant des dizaines d'années. Mais un étudiant de Stanford, en utilisant l'ordinateur le plus puissant de l'époque, un jouet à côté des smartphones d'aujourd'hui, a calculé dans les années 60 des trajectoires possibles pour des sondes en mettant en évidence l'effet de fronde gravitationnelle. Ça veut dire que si au lieu d'aller directement de la Terre vers ces planètes, une trajectoire plus complexe lui faisant frôler à l'échelle astronomique d'autres planètes, un engin peut bénéficier de l'attraction de ces planètes pour accélérer bien plus que ne peuvent le faire ces petits moteurs. D'un coup, la durée devenait bien plus raisonnable, de quelques années seulement, et par une coïncidence incroyable, la position des planètes extérieures à la fin des années 1970 présentait un alignement assez rare, ne se produisant que tous les 176 ans, permettant d'envisager une mission pour visiter toutes les grandes planètes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Lancées à l'automne 1977, les sondes Voyager ont approché Jupiter au printemps 79, Saturne fin 80, puis Voyager 2 seul, puisque les deux sondes suivaient des trajectoires différentes, a atteint Uranus début 1986 et Neptune en 1989. Comme je l'ai déjà exprimé ici, ce grand tour a été une révolution dans la connaissance de ces planètes, mais aussi de leurs satellites, dont on a découvert l'extraordinaire variété et la possibilité que certains puissent héberger de la vie, car renfermant de l'eau liquide, ce qui a relancé cette recherche vers ces nouvelles cibles, alors que jusque-là, seul Mars semblait pouvoir héberger ou avoir hébergé dans le passé la vie dans le système solaire, mis à part la Terre bien sûr. Donc peut-être rendez-vous en 2027 pour le 50e anniversaire de Voyager 1, qui sera peut-être moins gai, car selon les calculs, on pense qu'on risque de perdre la possibilité de communiquer avec elle autour de 2025.
Alors, sur un air d'Hervé Villard, Cassini, c'est fini?
Voilà, je me doutais bien que ça aurait une résonance musicale pour Joël.
C'est pas Capri, mais Cassini, bien sûr.
Voilà, dans la thématique des bonnes vieilles sondes qui durent, Cassini, du nom de l'astronome savoyard, alors une petite précision, je dis savoyard parce qu'en fait, il est né italien et il s'est retrouvé français suite au rattachement de la Savoie à la France, a découvert une séparation dans les anneaux de Saturne dans les années 1675. Donc Cassini est une sonde aussi remarquable, car lancée en octobre 1997, elle a survolé Jupiter en décembre 2000 avant d'atteindre sa destination Saturne en juillet 2004 pour étudier cette planète et ses satellites. Cette sonde de la NASA avait d'ailleurs embarqué le petit atterrisseur Huygens de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, lâché en janvier 2005 dans l'atmosphère du gros satellite Titan, qui est particulièrement intéressant car peut ressembler à une sorte de petite Terre primitive mais très froide, où les processus conduisant à l'apparition de la vie sont peut-être à l'œuvre. Cassini a étudié le système saturnien pendant plus de 13 ans, alors que sa mission initiale avait été prévue pour une durée de seulement 4 ans. Et elle a aujourd'hui pratiquement épuisé le carburant de ses moteurs permettant de la diriger en modifiant ses orbites. La NASA a donc décidé, conformément au droit international sur l'espace, de procéder à sa destruction, surtout pour éviter de contaminer les satellites avec des germes terrestres, et notamment Titan, en la laissant errer dans le système. En avril dernier, sa trajectoire a été modifiée pour la faire passer très près de Saturne, entre la planète et ses anneaux, et au final, elle sera précipitée dans la haute atmosphère de la géante gazeuse où elle se consumera. Ce plongeon est prévu le 15 septembre, entre 13h et 14h, le temps que les dernières images nous parviennent, soit environ 1h15. Cette fin violente de la sonde marquera aussi une longue pause dans l'exploration des planètes lointaines, car je n'ai trouvé nulle trace de future mission vers Saturne dans les projets confirmés de la NASA ou de l'ESA, même si depuis 2009, un projet baptisé TSSM, alors là la séance sera peut-être pas très bon, Titan Saturn System Mission, est à l'étude, combinant un projet de la NASA concernant Titan et un de l'ESA pour Titan et Encelade, un autre satellite. Avec notamment pour objectif de lâcher deux montgolfières pour étudier Titan en flottant dans son atmosphère. Au départ, son lancement était envisagé en 2020 pour atteindre Saturne en 2029, mais il n'apparaît plus dans la programmation de l'ESA, qui est définie maintenant jusqu'en 2025. La priorité ayant été donnée à JUICE, une mission vers Jupiter et ses satellites prévue vers 2022 et qui arrivera là-bas vers 2030.
Et Rosetta, ça continue, Michel?
Voilà, alors bien sûr, il ne se passe plus rien dans l'espace puisque la sonde a été précipitée sur la comète où elle s'est écrasée le 30 septembre dernier. Mais l'exploitation par les chercheurs des images et des données transmises se poursuit, ce qui peut durer encore des dizaines d'années. Par exemple, on étudie encore aujourd'hui dans des laboratoires les roches lunaires apportées par les missions Apollo des années 1970. Dans un article publié fin août dans MNRS, alors là, ça va être encore plus dur, c'est Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, une revue anglaise parmi les plus renommées au plan mondial dans le domaine de l'astronomie. Deux chercheurs français ont annoncé leurs résultats sur les molécules organiques trouvées par Rosetta sur la comète Chourie. Il s'agit de Jean-Loup Berthaud de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et Rosine Lallemand de l'Observatoire de Paris. Les comètes sont connues comme des fossiles du système solaire, car elles se sont formées très loin du Soleil dans une zone très froide où elles sont restées congelées pendant des milliards d'années. Donc leur composition nous renseigne sur l'état primitif du système solaire. Nées très loin de la chaleur du Soleil, elles contiennent une grande quantité de glace d'eau et on les décrit souvent comme des boules de neige sales. Sales car en agrégeant petit à petit des grains de matière de la nébuleuse protoplanétaire, c'est-à-dire le nuage de matière qui a donné les planètes autour du Soleil, elles grossissent jusqu'à atteindre leur taille, 7 km pour Chourie. Et elles ont capturé par là même aussi d'autres composants. On y trouve notamment des molécules organiques, c'est-à-dire à base de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, ce qu'on nomme dans le jargon « chon », hein, du nom de ces éléments avec leur sigle chimique. En résumé, et ce chon, on en est tous constitués comme tous les êtres vivants qui habitent la Terre. L'étude de Chourie par Rosetta montrait que ces molécules représentent 40% de la masse de cette comète, ce qui est donc très important, et confirme le rôle que ces objets ont pu jouer dans l'apparition de la vie dans le système solaire, en ensemençant les planètes et satellites avec ces briques élémentaires pouvant conduire à la vie. La récente publication des chercheurs français apporte un élément nouveau. Il apparaît que ces molécules organiques ne se sont pas formées à la surface de la comète, mais proviennent bien de la nébuleuse primordiale, ce qui était envisagé car l'analyse du milieu interstellaire a démontré depuis 70 ans qu'il renfermait de tels composés. On voit donc se dessiner un processus cohérent pouvant conduire à l'apparition de la vie sur les planètes où l'environnement serait favorable à son développement. D'abord, la formation de ces molécules complexes dans les nuages interstellaires par des processus très lents, car se produisant à basse température dans des milieux très peu denses. Puis leur capture par les comètes lors de leur formation dans le nuage protoplanétaire, comètes qui assurent ensuite leur transport à la surface des planètes, formées et refroidies, lors de l'intense bombardement se produisant au début de la création d'un système planétaire. Ce processus se déroulant à de très grandes échelles, car les nébuleuses sont immenses et renferment souvent de nombreuses étoiles, on peut supposer que cet ensemencement par les comètes est un phénomène très courant dans de nombreux systèmes planétaires. Un nouvel argument qui va dans le sens d'une vie largement répandue dans notre galaxie, le système solaire n'ayant pas connu une évolution particulière de ce point de vue. Il n'y a donc plus qu'à attendre que E.T. se manifeste enfin pour confirmer cette hypothèse.
Allez, toujours dans le cadre de votre chronique, Michel, le sujet, deuxième partie, notamment l'éclipse solaire totale du 21 août, est-ce qu'on pouvait la voir en Aquitaine ?
Alors effectivement, comme on a eu la chance d'avoir un ciel clair ce soir-là, en se plaçant sur un point haut pour bénéficier d'un horizon ouest très dégagé, on pouvait apercevoir fugitivement pendant une dizaine de minutes, le tout début du phénomène avant que le soleil ne se couche. Pour ma part, j'ai abandonné toute la famille à la fête de mon pont pour m'installer sur la colline où se trouve un relais radio près de l'échangeur de l'A89 et faire une série de photos publiées sur ma page Facebook. À propos de photographes du ciel, d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse pour signaler la très bonne série documentaire « Sous les étoiles » diffusée par Arte tous les soirs de la semaine dernière, mais qu'on peut encore voir jusqu'à la fin du mois sur le site de la chaîne. Pour ma part, je les ai trouvés très bien faits, montrant de belles photos du ciel, comme la Voie lactée en Australie ou les aurores boréales en Norvège, ainsi que les paysages sauvages traversés par ces passionnés à la recherche de sites préservés de toute pollution lumineuse. Et aussi, on peut apprendre des choses à propos de leur méthode de prise de vue, qui ne sont pas très sophistiquées, mais nécessitent du bon matériel et une maîtrise technique de l'imagerie en basse lumière. Un des épisodes est d'ailleurs consacré à un chasseur d'éclipses solaires. Pour en revenir à celle du 21 août, le spectacle était surtout aux États-Unis où de très nombreux observateurs ont pu bénéficier d'un ciel clément pour admirer le soleil noir, comme on appelle ces phénomènes, avec sa couronne, spectacle inoubliable pour tous ceux qui l'ont déjà contemplé. J'ai déjà abordé le sujet des éclipses ici et je ne vais donc pas réexpliquer ce phénomène en détail, mais apporter quelques éléments historiques complémentaires, car il y a un lien entre cette dernière éclipse et celle du 11 août 1999 qui avait traversé le nord de la France et une grande partie de l'Europe. Elles se suivent dans le Saros 145.
Alors Saros, un petit peu plus d'explications Michel si vous voulez bien.
Voilà, c'est une question de cycle régulier, mais pour bien le comprendre, il faut rapidement revenir sur le phénomène des éclipses. Cet événement met en jeu trois acteurs, le Soleil, la Terre et la Lune. Notre satellite, la Lune, orbitant autour de nous, se trouve une fois par lunaison, donc chaque mois, du côté du Soleil, c'est la nouvelle Lune qu'on ne voit pas dans le ciel, soit du côté opposé, et c'est la pleine Lune, toute ronde, car complètement éclairée. Certains pourraient croire que cela produit des éclipses à chaque fois, mais ça n'est pas le cas, car il faut pour cela un alignement des trois astres. Or, l'orbite de la Lune étant un peu inclinée, d'environ 5 degrés, par rapport au plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil, la nouvelle Lune passe soit au-dessus, soit en dessous du Soleil dans le ciel. Il ne peut donc y avoir une éclipse que quand la nouvelle Lune se produit alors que la Lune passe dans le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil, ce qu'on nomme un nœud en astronomie. Il y en a deux, à deux points opposés de l'orbite de la Lune autour de la Terre, ce qui fait qu'il y a en général deux occasions d'avoir des éclipses de Soleil chaque année. Et deux éclipses de Lune aussi, puisque lors de la pleine lune suivante ou précédente, donc deux semaines avant ou après l'éclipse solaire, l'alignement est assez bon pour que la Lune soit masquée par l'ombre de la Terre. Contrairement à ces éclipses lunaires visibles par la moitié de la Terre, partout où la Lune est visible dans le ciel, pour voir une éclipse solaire totale, il faut se trouver exactement sur la trajectoire de son ombre projetée sur la Terre, une bande d'une largeur d'environ 260 km au maximum. Et encore, le jeu des orbites peut nous jouer des tours avec l'ombre lunaire qui ne touche nulle part la surface de la Terre, donc une éclipse seulement partielle, ou qui frôlent les zones polaires qui ne sont pas très pratiques pour l'observation, ou encore le cas des éclipses annulaires, quand la Lune, plus éloignée de la Terre sur son orbite elliptique, donc plus petite dans le ciel, ne couvre pas complètement le Soleil, mais laisse apparaître un fin anneau de lumière tout autour d'elle. Je rappelle d'ailleurs que c'est une coïncidence incroyable que la Lune, environ 400 fois plus petite que le Soleil en diamètre, se trouve 400 fois plus près de nous, les deux astres ayant donc la même taille apparente et pouvant se superposer exactement pendant une éclipse totale de Soleil, révélant l'atmosphère surchauffée du Soleil qu'on appelle la couronne solaire. C'est un phénomène unique dans tout le système solaire, car sur aucune autre planète, les rapports entre taille et distance ne sont identiques. Et c'est temporaire, bien sûr à l'échelle astronomique, car la Lune s'éloigne lentement de la Terre. Donc dans un lointain passé, elle était trop grosse et masquait la couronne en même temps que le Soleil. Et dans un futur lointain, on a calculé que ce sera à peu près dans 260 millions d'années, elle sera toujours trop petite et ne produira plus que des éclipses annulaires.
Et le Saros dans tout ça?
Alors j'y viens. Il est facile de comprendre que les mouvements réguliers des astres, la Terre orbitant autour du Soleil en un an, soit 365 jours un quart, et la Lune autour de la Terre en un peu plus de 27 jours, les éclipses obéissent aussi à des cycles réguliers répétitifs, le Saros, d'une durée de 6585 jours un tiers, soit, si on fait le calcul, 18 ans, 10 ou 11 jours, suivant qu'il y a 4 ou 5 années bissextiles dans l'intervalle, et environ 8 heures. Petit calcul, l'éclipse totale en France était le 11 août 1999. Si on ajoute 18 ans, ça donne 2017. 10 jours, ça donne le 21 août. Et on a donc l'éclipse suivante dans le cycle. La malchance, ce sont les 8 heures, environ un tiers de tour de la Terre, ce qui fait que l'éclipse a sauté de l'Europe aux Amériques. La prochaine dans ce cycle, le 2 septembre 2035, se produira elle en Asie, avec un maximum situé dans le Pacifique. Et toutes les éclipses du même Saros sont analogues, par exemple totales, d'une durée voisine et visibles à peu près aux mêmes latitudes. Donc pour ceux qui sont suffisamment jeunes ou optimistes, il suffira d'attendre 2053, le 12 septembre, pour revoir une éclipse totale qui traversera l'Europe, ou presque, parce qu'en réalité, sa trajectoire ira du sud de l'Espagne, Gibraltar, vers l'Égypte et l'Arabie, en traversant toute l'Afrique du Nord. Comme les auditeurs l'auront compris, un cycle Saros correspond à une série répétitive d'éclipses se reproduisant régulièrement, mais il y a plusieurs cycles Saros imbriqués, puisqu'il peut y avoir environ 2 éclipses solaires par an et pas une tous les 18 ans. À une période donnée, il y a 40 séries Saros imbriquées, d'où les 2 éclipses annuelles en moyenne. Mais du fait des décalages progressifs des astres concernés, ces cycles sont d'une durée limitée dans le temps, de 1226 à 1550 ans, ce qui correspond à des séries de 69 à 87 éclipses. C'est ainsi qu'au fil du temps, le numéro du Saros a atteint des valeurs comme 145, donc pour celui dont on parle aujourd'hui.
Mais depuis quand, Michel, on connaît donc ces Saros?
Alors même si le terme est plus ancien, mais désigné un autre cycle que celui des éclipses solaires, il semble que la découverte de ce concept remonterait à Hipparque, un astronome grec du 2e siècle avant Jésus-Christ, ayant calculé la répétition de ces phénomènes en se basant sur les connaissances antérieures des mouvements célestes apparents, le cycle annuel du Soleil dans le ciel, les lunaisons et leurs anomalies, comme on considérait alors les petits décalages des observations par rapport aux prévisions, qui étaient basées sur un modèle d'orbite circulaire alors qu'elles sont en réalité elliptiques. Certains historiens pensent que cette découverte aurait pu être faite auparavant par les Chaldéens ou les Babyloniens, mais aucun texte ne le prouve. Au contraire, dans un de ses ouvrages, Hérodote, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, bien plus tôt, relate une bataille qui fut interrompue par une éclipse de soleil et précise que Thalès de Millet, donc qui vivait un siècle plus tôt, avait d'ailleurs prédit cette éclipse aux Ioniens pour l'année dans laquelle elle se produisit. Si on prédisait une éclipse dans l'année, c'est certainement qu'on ne connaissait pas le Saros permettant une précision au jour près. Mais il faut bien comprendre une chose, si les Grecs avaient cette connaissance de la périodicité des éclipses et pouvaient donc prédire leur retour, ils étaient totalement incapables de prévoir où elles se produiraient exactement, car la projection de l'ombre de la Lune sur la Terre demande un calcul beaucoup plus précis que les calculs moyens réalisés à cette époque. On pouvait donc dire qu'une éclipse solaire allait se produire, mais pas où elle allait se produire. Aujourd'hui, avec nos moyens de calcul bien plus sophistiqués, on peut les prédire à la seconde près et sur des centaines d'années. En examinant ces éphémérides, je peux donc vous annoncer 2 rendez-vous de la Lune avec le Soleil qui me semblent prometteurs. Le 2 juillet 2019, où la prochaine éclipse totale maximum dans le Pacifique se terminera en Amérique du Sud en traversant le Chili et l'Argentine. Puis, plus près de nous géographiquement, le 12 août 2026, quand une éclipse totale se terminera en traversant le nord de l'Espagne. Et pour la France, il y aura une éclipse annulaire visible dans le sud-ouest le 5 novembre 2059, mais il faudra attendre jusqu'en 2081, le 3 septembre, pour revoir une éclipse totale. Bien entendu, je n'ai pas listé toutes les éclipses partielles beaucoup plus fréquentes qui auront lieu dans l'intervalle, la prochaine pour nous le 10 juin 2021, ce qui atteindra à peu près 20%, c'est-à-dire un cinquième du Soleil masqué par la Lune dans notre région. Quand on considère ces dates, on se rend compte que pour une bonne part, les cycles astronomiques ne sont pas à l'échelle d'une vie humaine.
Allez, troisième partie de votre chronique, le ciel du mois, et vous allez commencer par la voûte céleste et les constellations.
Alors depuis la mi-août, on peut facilement constater à quel point les jours ont raccourci. En ce moment, le soleil se couche vers 20h30 et la nuit noire commence une heure plus tard. Fin septembre, ce sera nettement plus tôt avec le coucher vers 19h40. Et on pourra se préparer alors au grand décalage de fin octobre avec le passage à l'heure d'hiver comme tous les ans. Pour les constellations, le plus simple est de consulter les cartes que nous mettons en ligne sur notre site web, avec encore le ciel de l'été bien visible au sud en ce moment, et qui petit à petit est remplacé par le ciel de l'automne avec sa constellation centrale Pégase, qui culmine au sud vers 3h du matin. À la fin du mois, ce sera 2h plus tôt, donc en milieu de nuit. Concernant les planètes, en ce moment, la très brillante Jupiter nous quitte en se couchant très rapidement en début de nuit. Sa faible hauteur dans le ciel n'est pas favorable à son observation car la turbulence atmosphérique brouille son image dans les jumelles ou tout autre instrument. C'est Saturne qui culmine en début de nuit vers le sud, entre Scorpion et Sagittaire, qui est la plus intéressante. Mais pour admirer ses anneaux, il faut disposer d'un instrument astronomique, une simple paire de jumelles ne grossissant pas suffisamment. Le matin vers l'est, c'est la très brillante Vénus qu'on peut voir à partir de 4 heures environ en ce moment et presque jusqu'au lever du soleil tellement elle est brillante. Fin septembre, elle ne se lèvera que vers 6 heures. Et enfin, actuellement, on peut apercevoir brièvement Mercure dans les lueurs de l'aube et ce jusque vers le 20 septembre environ.
Les éphémérides.
Alors, je vais, comme je vois qu'on est un petit peu pris par le temps, je vais être un peu bref. À mon avis, la chose la plus intéressante, c'est ce qui va se passer le dimanche 17 septembre, un peu avant l'aube. Car Mercure se lève à peu près vers 6h15, et on pourrait admirer à ce moment-là un bel alignement du croissant de lune, un petit croissant de lune, de Vénus, de Mercure et Mars très proches l'une de l'autre, qui matérialiseront dans le ciel la ligne de l'écliptique, c'est-à-dire le passage dans le ciel étoilé du Soleil, des planètes et de la Lune au fil des jours. Donc c'est assez rare comme ça d'avoir un bel alignement de plusieurs astres qui le montrent. Deux autres rendez-vous, mais pas sous le ciel. Donc je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le 15 septembre, on pourrait voir sur nos écrans la plongée finale de Cassini dans l'atmosphère de Saturne. Et bien sûr, le 22 septembre, c'est vers 22h officiellement, ce sera l'équinoxe, c'est-à-dire l'égalité de la durée du jour et de la nuit, et ce qui marque pour nous le début officiel de l'automne. Et pour finir, un anniversaire, la prochaine chronique devrait marquer les 3 ans de collaboration de O2 Radio sur ces chroniques astro. Mais je ne sais pas encore quand elle pourra avoir lieu, sans doute début octobre, car ce sera impossible pour moi le dernier mercredi de septembre.
Voilà, on va en reparler bien sûr de ce rendez-vous hein, où ça tombe en voyage en Afrique du Sud. Allez, je l'ai dit, je l'ai dévoilé.
Voilà. Pour aller voir le beau ciel du Sud avec une voie lactée qui
toujours
devrait être magnifique.
La passion, voilà. Y compris dans la sphère, si je puis dire, privée. Alors, on a juste quelques instants pour redire quelques mots sur l'association, bien sûr, Constellation et Galaxie, Mission, site internet, etc.
Voilà, donc, nous sommes une petite association basée en Dordogne, dont une des activités principales, surtout dans la région bordelaise, et le planétarium itinérant, donc un planétarium qui peut venir par exemple dans les écoles. Alors j'insiste un tout petit peu lourdement aujourd'hui puisqu'on est en période de rentrée scolaire et c'est le bon moment pour les enseignants qui nous entendraient ou peut-être des parents d'élèves qui ont envie de suggérer à leur école primaire certaines activités pour l'année, de venir se renseigner sur ce qu'on propose, hein, de montrer le ciel aux élèves dans un ciel artificiel projeté par le planétarium dans une coupole gonflable. On se déplace sur le site, on trouve toutes les informations, la place qu'il faut pour l'installer, les tarifs, etc. Et le volet, hein, si je parle du site web, donc www.constellationsetgalaxies, pour nos auditeurs, la partie astronomie avec le ciel du mois, on trouve justement les cartes avec les constellations, les planètes, etc.
Très bien. En tout cas, merci Michel. C'est vrai que vous avez malheureusement pas pu tout dire. Les gens vous remercient. On a décalé. On a ce rituel, entre guillemets, le dernier mercredi du mois, la planète la semaine dernière. Et puis, on vous souhaite un bon voyage, bien sûr.
Merci.
Et on annoncera la date de la prochaine chronique, mais on va se...